Bonjour à tous, chers auditeurs, et merci de votre fidélité à la revue de presse mensuelle. Je suis Céline Saunier, toute nouvelle recrue au service communication du diocèse, et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être accompagnée par Muriel Perrin. Bonjour Muriel.
Bonjour Céline.
Et donc tu nous présenteras la partie société, ainsi qu'avec Liliane. Bonjour Liliane.
Bonjour Céline.
Qui nous offrira une pause spirituelle. Ce mois-ci, nous nous pencherons sur les revues mensuelles Croire, Le Monde des Religions, Panorama et La Croix Campus, destinée à nos lycéens et étudiants. Muriel, nous t'écoutons sur un article très intéressant de L'Invisible, un dossier spécial. Dis-nous-en.
Oui, alors c'est un dossier spécial couple. Pour les jeunes qui se posent la question de s'engager dans le mariage. Alors, comment faire le bon choix? De nombreux jeunes qui vivent en couple ont le désir de s'engager et songent au mariage. Pour bâtir une vie à deux, que faut-il faire? Alors, ils nous disent qu'il est conseillé de se poser quelques questions pour discerner si cette personne est la bonne pour bâtir une vie à deux. Face à l'inflation des divorces, du zapping et du jetable, les fiancés se marient de plus en plus tard. Ils se rassurent en partageant une vie commune avant le mariage, nous dit les statistiques. On nous dit aussi qu'il y a plus de divorces que parmi ceux qui ont vécu un vrai temps de fiançailles. Une étape de discernement doit aider les jeunes à découvrir leur manière de fonctionner. Et oui, l'engagement d'une vie mérite un moment de réflexion et de discernement. Le journal L'Invisible donc vous propose, pour vous aider dans ce discernement, des pistes ainsi que des lieux où vous pourrez vous poser pour vous écouter et donc vous poser toutes les bonnes questions. Donc dans les pages qui suivent ce dossier, L'Invisible propose un débat sur le pardon en couple. Peut-on tout pardonner en couple? La vie à deux est loin d'être facile au quotidien. La demande de pardon serait-elle une des clés des couples heureux dans la durée? C'est une grande question. Je vous laisse découvrir les réponses à ce débat.
Bien, merci. Et désormais, ce sera donc de la colocation pour personnes âgées dans la revue Panorama.
Oui, alors il s'agit du numéro 570. C'est une femme de 40 ans qui est maîtresse de maison qui s'appelle De Bois Vert. Alors, ça se trouve dans le Loir-et-Cher. C'est à quelques kilomètres donc au sud de Blois qu'Agathe Hubert, une mère de famille de 40 ans, a créé une structure spéciale d'accueil, pas comme les autres. Ce sont 4 personnes âgées, non dépendantes, qui vivent chez elles. Mais alors, elles ont choisi la colocation. Agathe est touchée par le pape sur l'écologie. Elle prend davantage conscience du lien entre le soin de la nature et celui des personnes. C'est à partir de là qu'elle décide en famille d'être à la tête de cette maison de bois vert en Loir-et-Cher. Elle veille à la bonne ambiance et prépare les repas avec les colocataires. L'esprit est de faire ensemble et non à leur place. Sa famille, ses enfants et son conjoint participent aux activités des journées en apportant leur talent. Ce mélange des générations est une source de gaieté pour ces personnes âgées. Elle offre à ces personnes donc la chaleur d'une vraie vie de famille. C'est l'objectif qu'Agathe, mère de famille de 40 ans, souhaite pour ces personnes.
Bien, merci. Et donc désormais, ce sera la Croix Campus. Tu vas nous parler d'agriculture.
Oui, alors il s'agit du numéro 222 de février, qui à la une de ce magazine se pose la question de l'agriculture, le défi vert. Alors, l'agriculture va-t-elle faire sa révolution? C'est en fait, va avoir lieu le salon de l'agriculture à Paris, donc le 22 février, et c'est à ce sujet qu'on se pose la question, qu'on s'interroge sur les transformations de ce secteur, et on donne l'exemple de la méthanisation. Alors, qui produit de l'énergie à partir de production ou de déchets agricoles. En France, on compte plus de 300 installations agricoles. Cette filière a le vent en poupe, mais suscite des vraies réserves. C'est un processus qui a pour objectif de produire de l'énergie renouvelable et du compost pour fertiliser les sols à partir de déchets agricoles. Il est loin, ce processus est loin de faire l'unanimité pour deux raisons. D'abord, l'odeur qui est dégagée et la qualité du digestat épandu. Ce digestat épandu qui doit être fait au bon moment et à la bonne dose. Ça pose d'énormes questions sur effectivement les odeurs que cela dégage. Il y a actuellement de grandes questions au niveau du voisinage sur cette nouvelle procédure.
Eh bien, merci Muriel donc pour cet article sur l'agriculture, c'est très intéressant. Et maintenant, ce sera au tour de Liliane, du coup, avec le cahier croire. Pourquoi faudrait-il porter sa croix, Liliane ?
C'est ça. Le cahier croire de janvier-février, numéro 327. Alors, vous savez que dans ce cahier, il y a trois parties, la partie théologique, la partie Bible et puis la partie pratique. La dernière fois, j'ai pris la partie Bible, donc cette fois-ci, c'est la partie théologique. Alors, pourquoi faudrait-il porter sa croix ? Et plusieurs fois, en effet, dans les évangiles, Jésus nous demande de porter notre croix, mais aussi de prendre notre croix. Alors, en fait, il ne nous demande pas de porter la sienne, bien sûr. Hein. Ça, il l'a fait une fois pour toutes, c'est fini. Mais de porter la nôtre, c'est-à-dire de porter nos propres charges. Par exemple, et alors là, je vous cite ça parce que j'ai trouvé ça délicieux, le pape François qui en parle, justement, dit, eh bien, un exemple de porter sa croix, c'est supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Bon. Le pape qui le dit. Hein.
Ah oui.
Bon. Alors, Matthieu, par exemple, lui, il nous dit il faut prendre sa croix. Donc là, c'est quand même quelque chose de supplémentaire. C'est pas seulement baisser la tête, supporter sa croix. Non, ça veut dire il faut prendre sa vie en main, hein, et puis la prendre à bras le corps, debout. Je trouve ça une bonne expression. Hein. Et je rappelle ce que disait Jésus. Hein, parce qu'on prend sa croix, enfin on prend sa vie en main, en compagnie du Christ qui nous a dit hein, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.
» Tu nous as trouvé également des articles dans le panorama de ce mois-ci.
C'est ça, février numéro 570, le dossier « À deux vers Dieu ». Je rejoins un petit peu Muriel. Donc là, il s'agit de témoignages de couple. C'est intéressant. Alors, je vous prends quelques petites phrases que ces couples, je ne vais pas tout vous énumérer, mais par exemple, un couple dit « Nous nous aidons mutuellement à devenir meilleurs ». Un autre « Quel bonheur de se savoir aimer, même quand ça ne va pas ». Un autre encore « Il a été pour moi le visage humain de la bienveillance de Dieu ». Et enfin, « Elle m'aide à voir les signes de Dieu ». Alors, lisez les témoignages, parce que je vous assure, ils en valent la peine.
Qu'en est-il du côté de la revue « Le monde des religions »
de janvier-février, numéro 99. Alors, toujours le gros dossier qui s'intitule « L'habit fait-il le croyant ?» Là, il y a une entrevue avec la responsable d'un atelier qui se situe près de Lyon, fondé en 1843, qui faisait évidemment des habits religieux. Ben, il dit que maintenant, avec la suppression de la soutane, par exemple, il y a un effondrement de la production. D'ailleurs, tous les ateliers tout autour ont disparu. Ils sont les seuls à rester. Et s'ils s'en sortent, c'est parce qu'ils font les robes, par exemple, des avocats.
Mais oui. Hein ?
Alors, et pareil, ils ont moins de clients dans les monastères. Avant, il dit, en 1970, par exemple, on expédiait 10 000. Il y avait 10 000 clients dans les monastères, et 20 ans plus tard, il n'y en a plus que 500.
Ah oui.
Et qu'avant, ils se déplaçaient, ils allaient dans les monastères porter les vêtements, ça faisait un contact. Mm. Maintenant, tout ça, ça se fait...
Ça s'envoie par la poste.
Ça s'envoie par la poste, c'est fini. Mm. Alors, pour en revenir aux vêtements religieux dont je vous ai déjà parlé, hein, les couleurs sont importantes. En Asie, par exemple, la couleur et la matière et la façon dont les tissus sont portés, ça revêt vraiment une importance tout à fait symbolique. Une signification tout à fait spirituelle, très très codifiée, et ça témoigne de l'identité religieuse et culturelle. Par exemple, la couleur orange-jaune, eh bien chez eux, ça symbolise le don de soi, l'ascétisme. C'est pour ça qu'on voit les moines bouddhistes habillés en orange-jaune. Dans le bouddhisme zen, par exemple, la pratique de la couture du kesa, le kesa c'est un vêtement de libération, ils l'appellent, ça dépasse la simple confection du vêtement, parce que ce sont des petits bouts qu'on met ensemble et la valeur, ça signifie rassembler ce qui est épars, en nous aussi. Hein.
Un autre mensuel catholique sur la croix campus.
De février. Alors un petit encart qui s'intitule « Le martyr, figure clé du schisme iranien ». Alors si vous vous souvenez, on nous a annoncé donc la mort du général Soleimani provoquée par Trump. Ça a suscité de vives réactions en Iran. Il a été qualifié de martyr. Alors c'est un terme extrêmement important dans le chiisme. C'est la notion de martyr existe aussi dans la branche sunnite de l'islam. Cette notion de martyr existe en fait partout dans les religions. Hein. Depuis l'époque du prophète Mahomet, celui qui meurt au nom d'Allah lors du djihad, parce que le djihad c'est chez eux la guerre sainte, eh bien, il devient shahid, c'est-à-dire martyr. Alors, plus fondamentalement, le martyr, c'est celui qui est mort pour avoir porté un témoignage de foi. En grec, martyr, ça veut dire témoin.
Très bien, merci Liliane. Eh bien, de mon côté, je vais vous parler de rêves, de voyages. Faire cette sélection d'articles pour cette revue de presse est finalement assez révélateur de nos personnalités. Et moi, eh bien, je suis un peu ce que l'on nomme une routarde. Et comme le monde est petit, il s'avère que le frère de l'un de ces aventuriers dont je vais vous parler a vécu au Brésil avec mon mari. Alors raison de plus pour vous en parler. C'est donc avant que le numéro 111 de l'Invisible, paru en février, qu'Alexandre, Sonia et leurs enfants vous emmènent en voyage. Un trek en famille de 5000 km parcourus sur 4 années, bien sûr sur Madagascar, une merveilleuse île. La famille Poussin n'a pas hésité à sortir de son nid pour vivre cette expérience hors du commun. Un voyage non pas touristique, mais un voyage vers l'autre, un voyage pour l'autre. Puisque pas moins de 400 000 euros ont été soulevés et distribués à 33 associations, dont l'association du père Pedro, fondateur de l'œuvre humanitaire Akamasoa, qui lutte contre la pauvreté sur l'île. Le récit est ponctué d'anecdotes qui vous feront sourire, vous rappelleront ô combien la foi est importante pour affronter les épreuves et comment elle se fortifie en voyage. Victor Hugo disait « Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant ». Je crois que ce témoignage l'illustre parfaitement. C'est une merveilleuse épopée qui vous emmènera découvrir l'île Rouge en 16 épisodes et en un film de 52 minutes. Ça s'appelle « Mada Trek ». Vous retrouverez donc l'intégralité de l'interview ainsi que toutes les références dans le numéro 111 de l'Invisible, paru en février. Et si vous ne pouvez pas partir avec votre moitié ou votre famille à l'autre bout du monde pour vivre une folle aventure, vous pouvez toujours aller au théâtre. C'est dans ce même numéro de l'Invisible qu'on nous propose une sortie parisienne au théâtre L'Épic, dans le 18e arrondissement de Paris. Le fruit de nos entrailles, de Sophie Galitzine, avec elle-même, ainsi que Mehdi Djahadi. Une pièce qui nous replonge dans le grand oui, celui qui nous unit pour la vie. Quand autour de nous, cela semble une folie de choisir une seule personne pour la vie, cette pièce nous fait réfléchir à notre engagement, à tous les efforts que nous sommes capables de faire pour s'y tenir et comment y parvenir. Ici, Louison et Max vont même s'ouvrir à l'idée d'un ménage à trois. Oh, je vois Muriel et Liliane me faire les yeux ronds et les sourcils froncés. Mais non, tout de suite de vilaines pensées. Cette troisième personne est celle dont nous avons tous besoin, celle qui rend cette union sacrée. Comment accueillir le Christ au sein même de son couple? C'est donc le numéro 111 de l'Invisible qui vous encourage à aller voir ce spectacle. Il y a une représentation tous les vendredis et samedis à 19h30 au Théâtre L'Épic de Paris. Eh bien merci, merci à Liliane, merci Muriel et à très bientôt.
Comme un bâton de pèlerin, tu m'appelles à partir plus loin. À mes côtés, soir et matin, comme un bâton de pèlerin. Comme un bâton de pèlerin, ton évangile me soutient. À mes côtés, soir et matin, comme un bâton de pèlerin. Dans la lumière du levant, le crépuscule du couchant, ton soleil éclaire ma vie. Je n'ai plus peur de l'aujourd'hui. Comme un bâton de pèlerin, tu m'appelles à partir plus loin. À mes côtés, soir et matin, comme un bâton de pèlerin.
Musique.
Comme un bâton de pèlerin, ton évangile me soutient. À mes côtés, soir et